Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité pour la deuxième semaine est...
Laurent Mauduit, voilà, je suis toujours rédacteur en chef au Monde et toujours responsable du service entreprise du quotidien.
La semaine dernière, on avait parlé de l'aspect plutôt économique de la politique socialiste. Cette fois-ci, j'aimerais qu'on s'interroge un petit peu plus sur l'aspect politique à proprement parler, de l'évolution de ce parti ou l'évolution de la gauche d'une façon générale. Dans le livre que vous avez écrit en collaboration avec Gérard Desportes, donc l'adieu au socialisme, dont j'avais déjà célébré les louanges la semaine dernière, vous parlez à un moment d'une sorte de continuité, de rupture de la continuité historique. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu cet aspect?
C'est le constat majeur qu'on fait dans le livre, c'est parce que après une défaite, il y a toujours le coup de blues, pessimisme, voilà, c'est la défaite est terrible. Et puis, mais on se dit toujours après coup la défaite, après la défaite il faut la digérer, puis après la défaite ça revient, et puis il y a l'alternance, et puis c'est parfois ça va vite. Regardez, 93, la gauche est au fond du trou, et puis 97, victoire impensable de la gauche. Jospin aide la gauche à se reconstruire. Notre jugement, c'est que 2002, donc l'élection présidentielle, le 21 avril, ce n'est pas ça du tout. Nous parlons, nous, d'une défaite historique. Voilà, comme vous le dites, rupture de la continuité. Pourquoi est-ce qu'on parle de défaite historique? C'est parce que il y a beaucoup de raisons. La semaine dernière, on parlait de l'évolution du capitalisme qui poussait à cette rupture. J'ai refait que la gauche, de plus en plus, se confond dans sa politique économique avec la droite. Un autre aspect très très fort, c'est le lien avec le peuple. La gauche, c'est le peuple. La gauche, c'est ce qu'on appelait autrefois le mouvement ouvrier organisé. C'est le lien avec une couche sociale, essentiellement les couches ouvrières auxquelles s'agrègent des couches associées, alliées, la petite bourgeoisie, les couches moyennes. Et là, le phénomène très marquant du 21 avril, c'est pour ça qu'on parle de rupture historique. On en avait parlé aussi la semaine passée, c'est que le peuple fait défaut. Le principal parti ouvrier en France, c'est le Front National. Et donc c'est pour la gauche un effondrement. Et notre hypothèse, peut-être faut-il attendre qu'elle se vérifie. Et il y a peut-être une hypothèse seconde, plus optimiste ou secondaire, mais on peut sous-peser les deux hypothèses. Notre hypothèse en tout cas centrale, c'est celle de l'adieu au socialisme. C'est que cette histoire de la gauche, cette histoire du mouvement ouvrier qui a commencé au début du 20e ou à la fin du 19e, au milieu du 19e, c'est clos le 21 avril. C'est la fin de l'histoire parce que, essentiellement pour ça, ce que je vous indiquais à l'instant, c'est il n'y a plus de lien avec le peuple. C'est quoi l'évolution? Moi, mon intuition pessimiste, mais tout à l'heure on parlera de l'hypothèse optimiste, même si elle est moins forte à mon avis, moins probable pour le court ou le moyen terme. L'hypothèse pessimiste, c'est que on a eu une sorte de mouvement anglo-saxon pour l'économie. Je vous l'ai dit la semaine dernière, à mon sens, le capitalisme européen s'est transformé en un capitalisme très anglo-saxon, et j'ai le sentiment que on s'est dirigé sur le plan politique à cette même mutation. Une mutation vers une politique anglo-saxonne avec des partis qui sont plus des grands partis comme on disait autrefois ouvriers. Le PS n'a jamais été un parti ouvrier, mais lié au mouvement ouvrier. Le PS, c'est le lien autrefois avec la FEN, la Fédération de l'Éducation Nationale, lié au syndicalisme. Donc, comme la FEN ou confédérée, l'ancienne CGT unifiée d'autrefois. C'est ce lien-là qui se rompt pour se transformer en quoi? Une sorte de gigantesque machine électorale pour la présidentielle, avec des pom-pom girls une sorte de grand appareil vider ses militants, et donc c'est une évolution pathétique. Et je me dis qu'il y a une évolution entre l'économie et la politique. Ça va, tout ça, malheureusement, sans doute dans le même sens.
Tout à l'heure, vous disiez que le peuple a fait défaut à la gauche. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire plutôt que la gauche a fait défaut au peuple?
Comme on disait autrefois, il y a sans doute une relation dialectique entre les deux. C'est l'œuf et la poule, ou la poule et l'œuf, les deux se combinent.
Parce que les socialistes, à un moment, juste après la défaite, ont eu tout un discours qui tendait à dire « on s'est mal fait comprendre, on ne leur a pas bien expliqué, ils sont un peu mal comprenants ».
Oui, mais c'est pour ça que je dis que il faut. C'est pour ça que c'est pas une défaite ordinaire. Hein. C'est pas. Voilà, je pense que Jospin a fait une mauvaise politique, une politique trop centriste, trop libérale, le 97-2002. Mais je pense que ce qui se joue le 21 avril 2002, c'est pas seulement la législature. Je pense que c'est 20 ans de socialisme en France. Je pense que pour comprendre la colère ouvrière, le fait que le principal parti ouvrier en France, c'est le Front National, je pense qu'il faut lire ça sur 20 ans, 25 ans. Je pense qu'il faut se remémorer la restructuration dans la sidérurgie, des années de plans sociaux incessants. Curieusement, si vous regardez la droite a une certaine fidélité avec son électorat. Hein, dans des conditions que vous pouvez parfois juger douteuses, hein, je veux dire, prenez les milieux agricoles. La droite, il y a beaucoup de clientélisme. L'envie de garder la confiance de ces couches sociales-là a conduit à beaucoup de clientélisme. La gauche, en revanche, ou même chose pour vous prenez certaines professions médicales, par exemple, regardez les tergiversations de la droite à l'égard des professions médicales, hein, aussi clientélisme. Parfois, la droite a affirmé une volonté de rigueur en matière de dépenses de santé qu'elle n'a jamais appliquée parce qu'elle ne voulait pas se couper, notamment des médecins. Souvenez-vous, hein, Chirac qui tournait comme une girouette sur les honoraires médicaux. Bon, et la grande réconciliation, il y a eu le plan Juppé, puis la grande réconciliation après. La gauche n'a jamais eu ces oscillations à l'égard de son électorat. Elle a toujours été constante. Elle a toujours une politique assez fortement anti-ouvrière. La politique de désinflation compétitive, la politique de restructuration industrielle, enfin, on a vécu 20 ans de restructuration industrielle, hein, violente. Et donc, voilà, je pense que le 21 avril, on paie ça. C'est-à-dire que il y a une sorte de... La gauche a abandonné le peuple, et puis le peuple se révolte. Mais se révolte, hein, de ma jeunesse, hein, je garde ce souvenir de la phrase de Trotsky, qui est terrible, mais qui, je trouve, est d'actualité, même si le trotskisme a pris des coups de vieux sur plein d'aspects, il y a dans le vote Front National, pour expliquer la base populaire du fascisme, Trotsky dit, quand le peuple ne trouve pas de solution dans l'espoir révolutionnaire, c'est-à-dire dans une politique conforme à ses intérêts, enlevons le mot révolutionnaire qui brouille le message, en tout cas le peuple cherche dans ce cas-là, dans le désespoir contre-révolutionnaire. Traduit en langage moderne, enlevons le débat réforme-révolution, mais traduit en langage moderne, ça veut dire que le vote protestataire pour le Front National a toujours quelque chose à voir avec l'incurie de la gauche. Si la gauche faisait normalement son boulot, pour parler simplement, on n'aurait sans doute pas le vote Front National.
Les souhaits des hommes, donc toujours en compagnie de Laurent Mauduit. Encore une fois, quelque chose que je comprends pas très très bien, c'est tout à l'heure vous parliez d'espoir ou de désespoir, et là je serais moi-même plutôt assez désespérée, mais je comprends pas pourquoi les socialistes ne justement comprennent pas eux non plus pourquoi qu'on a en réalité besoin d'espérance et pas simplement de mesures ou de mesurettes.
Ouais, me faire un procès, je pense qu'il y a certains. Faut croire dans l'honnêteté des hommes, hein. Il y en a certains qui peuvent penser que. Il y a une part d'espoir dans les mesures qu'il porte. Ce qu'il faut quand même, malgré tout, espérer, c'est que aussi on tire les enseignements. Quoi. Il y a une part de lucidité. Quoi. C'est le débat qu'on avait tout à l'heure ensemble, hein, sur l'autisme des socialistes. Certains disent attendez, on a créé des emplois, on n'est pas compris. Je pense qu'après un choc comme celui du 21 avril. Bon, même ceux qui s'accrochent à cette explication, je pense qu'ils devraient avoir l'énergie de se dire « Attendez, cette défaite-là n'est pas ordinaire. » Voilà. Et donc, penser que ça appelle à une sorte de sursaut, de diagnostic, d'audit de ce qu'ils ont fait, et puis de la déroute vers laquelle on se dirige. Si c'est toute la planète... C'est pas les socialistes. Vous êtes encore plus archéo que moi là sur ce plan-là. C'est pas les socialistes. C'est la planète organisée de la gauche qui s'est effondrée. Toute la planète, hein, et donc c'est pas seulement les socialistes. Mmh. Parce que quand je vous parle tout à l'heure de la rupture de l'empathie avec les milieux ouvriers, il y a plus de lien de sympathie organisé, mais il faut compléter le jugement. Hein. Très logiquement, vous pouvez aussi observer que si le PS et le PC n'ont plus le lien avec les milieux ouvriers employés, la gauche radicale n'a pas capté ça pour autant. Hein. La gauche radicale fait sûrement des choses très bien, elle révèle Hein, on parlait d'attaque la semaine passée, mais elle révèle des colères, des protestations de Seattle à Florence, hein, notamment de la jeunesse, pas seulement, mais voilà. Mais il reste qu'en France, la question politique qui est posée, c'est est-ce qu'il y a une alternance possible après la droite ? Et il n'y aura pas d'alternance politique tant que s'il n'y a pas des couches sociales qui font que le projet de la gauche est politiquement majoritaire. Donc ça pose indéniablement la question, toujours, de la reconquête de ces milieux-là, milieux ouvriers, employés, que personne, à mon avis, ne se pose. Vous prenez au sein du PS, moi j'entends les débats politiques qu'il y a, je sais pas, la gauche, le courant gauche du PS autour d'Emmanueli et de Mélenchon. Et en termes de positionnement politique, ils parlent de mesures plus énergiques, de mesures d'espoir, ce que vous aviez l'air de suggérer dans votre question. Mais oui, c'est très bien de ça, hein, mais à chaque coup, la gauche nous a fait le coup. Attendez, on va prendre des petites mesurades de gauche. Et même après le premier tour de la présidentielle, ils nous ont fait ce coup-là. On va essayer de muscler un petit peu. Là, le problème est beaucoup plus grave que ça pour la gauche. C'est pour ça que je pense qu'il y a une sorte de tournant terrible, basculement historique. C'est les couches sociales que la gauche a mis 20 ans à désespérer. Si elle veut un jour les reconquérir, ce qui est, elle est même pas sûre qu'elle le veuille, hein. Quand on entend les gens, on n'est même pas sûr que moi j'entends pas dire, tenez, on va retourner faire du porte-à-porte dans les HLM pendant des années pour essayer de regagner les gens qu'on a perdus, hein. Mais voilà, c'est-à-dire que le travail, si la gauche voulait redevenir ce qu'elle est, c'est pas seulement des murs d'espoir, ce serait une sorte de volonté politique tendue sur un objectif terrible. Terrible, c'est-à-dire terriblement dur pour elle à atteindre, qui serait de reconquérir des couches, les couches populaires du pays. Le veut-elle ? J'en suis pas certain.
Est-ce que le choix qu'elle pourrait faire ne consisterait pas à former un espèce de grand parti de gauche fédérée autour du Parti Socialiste, en espérant que les choses se passent un petit peu comme comme en Amérique, c'est-à-dire que la majorité des gens ne votent pas ?
Oui, alors c'est l'hypothèse dont je parlais tout à l'heure, c'est une sorte de grand parti démocrate à l'américaine, hein, voilà, des grandes machines électorales. Certains évoquent le projet explicitement, et même j'ai l'impression que ceux qui, enfin, mais moi ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il n'y a personne, peu de gens qui évoquent un autre projet qui pourtant me semblerait intellectuellement assez cohérent, assez intellectuellement attirant. Qui est un exemple du, genre, je ne sais pas s'il faut faire référence au Parti des travailleurs brésiliens, hein, dans lequel on a transposons la situation française, hein. On a Olivier Besancenot et François Hollande dans ce parti-là. Hein. Si j'en appelais à la mémoire des gens de gauche qui nous écoutent, les plus âgés d'entre eux, moi ça me fait penser, vous savez, au Parti Socialiste Autonome, le PSA, qu'on a connu à la fin des années 50. Souvenez-vous, la SFIO de l'époque, hein, donc les socialistes de l'époque, mènent une politique les dirigeants ultra-droitières. Il y a l'Algérie, il y a la torture en Algérie, il y a une explosion de colère au sein du PS, et puis naît un petit parti qui ensuite prospère, devient assez grand, qui s'appelle le PSA, qui sera ensuite qui est l'ancêtre de ce que viendra ensuite le PSU plus tard. Mais le PSA, bah, il y a des gens de gauche et d'extrême gauche. En tout cas, qu'est-ce que je veux dire par la gauche et l'extrême gauche ? C'est qu'il n'y a pas d'esquive au débat. Tout le monde s'est réuni, tout le monde débat ensemble pour essayer de tirer le bilan. Moi, ce qui me frappe beaucoup, et ce que le facteur de mon pessimisme, c'est que je vois pas ces lieux de regroupement, de débat collectif. Je vois des tactiques personnelles à droite, à gauche, mais aussi dans la gauche radicale. Hein. J'ai l'impression que certains, même dans la gauche radicale, aimeraient bien faire prospérer le petit magot qu'ils ont gagné pendant la présidentielle. Gros magot, hein. Je pense qu'une partie du vote extrême gauche est aussi le produit du désespoir qu'a induit la politique de la gauche officielle, la gauche de gouvernement. Mais je veux dire que la Ligue et la LCR, le parti de Besancenot, qui a fait un très beau score à la présidentielle et pour envie de gagner 100, 200, 300, voire même 3000 militants en plus, magique pour eux. Moi, comme citoyen, je trouve que ça ne fait pas du tout avancer les chemins publics. Pour autant que la question qui est posée, c'est est-ce que la gauche dans son entier arrive à refonder un modèle, un projet de société cohérent, et sur quelle politique, et s'appuyant sur quelle force sociale ?
À l'YFM, toujours avec des titres un petit peu étonnants.
Rétro un petit peu.
Hein, voilà. Mais j'aurais voulu faire un espèce de pont un petit peu entre les deux émissions, la première portant plus sur l'aspect économique et la deuxième sur l'aspect plus politique à proprement parler. Est-ce que finalement l'éloignement de la gauche de son électorat qu'on pourrait dire naturel d'une certaine façon, est-ce qu'il n'est pas dû finalement à une absolue abdication de la pensée pendant une trentaine d'années de penser cette évolution économique et du coup ensuite de se laisser avoir comme les petits papillons par la lumière, par l'ensemble des mythes qui ont été produits, notamment par les libéraux?
Oui, moi, ce qui me frappe beaucoup, parce que, donc, il faut jamais insulter les hommes, essayer de comprendre les évolutions, et puis les évolutions paraissent sont tellement formidables qu'il arrive que les hommes, même les plus trempés, se fassent broyer, hein. Moi, ce qui me frappe dans la mutation économique que l'on vit, qui est terrible, hein, très forte, très accélérée, très, très profonde, hein, économique, mais les évolutions économiques touchent au pacte social, c'est-à-dire la façon dont les hommes ont de vivre ensemble dans la cité, hein. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on a connu d'autres mutations comme ça dans l'histoire. Et en général, les grandes crises, les grandes mutations créent pour les hommes les instruments intellectuels pour la comprendre, pour la dominer. Hein. Pas forcément pour la dominer, en tout cas pour la comprendre. Évidemment, la référence que j'ai envie de faire tout de suite, c'est 1848, hein, la grande révolution européenne ouvrière, où pour la première fois, la classe ouvrière européenne agit politiquement pour son propre compte. Et Marx, voilà, Marx ne fait qu'exprimer le mouvement le mouvement politique qui se dessine à l'échelle de toute l'Europe. Mais on pourrait dire la même chose, la Grande Dépression 1929 et Keynes. Hein, je veux dire, les hommes en général, les génies sont pas des génies abstraits, ils ont le talent d'essayer de rationaliser un mouvement qu'ils ont sous les yeux et qu'ils observent. Et je trouve que voilà, la singularité de la crise que l'on vit, c'est qu'on vit une crise terrible, très profonde, une mutation très très violente, et que cette crise-là n'a pas généré les instruments intellectuels pour la comprendre. Et donc, du coup, vous regardez bien les déchirements que la gauche européenne a vécu. Il y en a certains, les socialistes allemands, le SPD, en 1959, ils font un grand congrès, Bad Godesberg, une petite ville au bord du Rhin. Et ils font leur aggiornamento, ils se convertissent à l'économie de marché, ils abandonnent le socialisme, voilà. Eux, c'est les seuls, hein, vraiment, qui prennent le temps d'un congrès de réfléchir en disant « on change ». Les socialistes français n'ont jamais eu ce courage-là. Hein. Vous avez la prise du pouvoir en 81, enfin l'alternance, 81, la gauche arrive au pouvoir, et puis il y a aussitôt après, 82, hein, ils heurtent de plein fouet le mur de la contrainte extérieure, comme on a dit. Et voilà. Et ensuite, chien crevé au fil de l'eau. Ils s'en vont. Il n'y a jamais de moment pour réfléchir. Prenez un seul exemple. C'est quoi le statut d'une entreprise, par exemple? Est-ce qu'il y a des intérêts divergents entre les employeurs et les employés? Est-ce que macroéconomiquement, il y a des intérêts contradictoires entre le capital et le travail? Quand même, pour quelqu'un de gauche, c'est quand même un gros débat, hein, c'est quand même assez décisif comme débat. Est-ce que la lutte des classes continue? Est-ce que tout ça, c'est des débats qui renvoient à la critique de l'économie politique de Marx, hein, donc c'est pas des débats seconds. Eh bien, comment ça s'est réglé chez les socialistes? Oh, c'est très simple, hein, déclaration de Mitterrand un jour en 1984, en janvier 1984 exactement, où il dit, ben voilà, les entreprises, c'est le lieu de création de richesses, hein. Donc quelques mois avant, il disait, les patrons, il faut leur faire rendre gorge, hein, par allusion au frère Villot, qui était à la tête de la compagnie Boussac. Puis d'un seul coup, hop, les patrons, ça devient symbole tapis, les nouveaux héros des temps modernes. Voilà, ça a été donc un basculement non réfléchi, non pensé, avec des caricatures folles, hein. Ça a été donc les dérives qu'on a connues, l'argent fou, hein, les années fric, les années tapis, voilà. Alors, Jospin, c'était pas le même tempérament, il a résisté un peu à ça, mais malgré tout, peut-être qu'au bout du compte, les années Jospin ont été encore pires comme années fric. Pire, c'était les années... moi, je pense à certains de mes anciens amis d'autrefois, quand j'étais jeune, quand je militais, avec qui on avait une part de rêve, une part de... une part d'utopie, toujours. Hein. Je me dis, au bout du compte, c'est devenu la génération stock-option. Quoi, ça me fait peur un petit peu, parce que je me dis, il y a une sorte de crise de la pensée terrible, et que cette génération-là, celle à laquelle j'appartiens, post-68... mais on rêvait encore de révolution, il y a eu le choc des événements, il y a eu le mur de Berlin qui s'est effondré, nos convictions se sont largement effondrées. Puis, mais quand un homme avance, on a envie toujours de passer ses convictions au tamis, essayer de se dire, tiens, qu'est-ce qui reste de mes convictions anciennes, qu'est-ce qui est encore valide et qu'est-ce qui ne l'est plus. Et je trouve que cette génération-là, hein, je parle de ma génération à moi, mais c'est plus globalement la gauche, il y a plein de gens, il y a sans doute beaucoup de militants, beaucoup d'individus qui sont frustrés d'un grand débat, qui se sont dit, tiens, dans notre génération, on n'a jamais pris le temps de réfléchir, de voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, j'aime bien l'expression passer au tamis, ses convictions anciennes. Ben voilà, le monde s'est effondré. Et vous savez, il y a un philosophe avant Marx, hein, Marx reprend ce concept-là, Weltanschauung, c'est de l'allemand, concept de Hegel, c'est une vision du monde, une conception du monde. Ben voilà, moi ce qui me frappe, c'est que la conception du monde, la conception ancienne de la gauche, s'est effondrée. Le dernier effondrement, ça a été le mur de Berlin, et puis l'onde de choc derrière, le dernier onde de choc, la réplique du tremblement de terre, c'est le 21 avril, ben tout ça s'est effondré, et je me dis qu'il y a toute une pensée, que la gauche, pour se reconstruire, d'abord devra reconstruire sa pensée.
Eh bien, merci Laurent de Mauduit d'être venu. Je rappelle le titre du livre que vous avez écrit avec Gérard Desportes et publié donc aux éditions Grasset. Ça s'appelle L'adieu au socialisme. Je le redis une fois encore, c'est vivifiant. Parfois un peu tristoun quand même, faut le dire, mais ça fait plaisir de lire un tel livre, voilà. La semaine prochaine, je ne sais pas encore qui sera notre invité, mais je ne désespère pas que vous soyez quand même derrière votre poste. Vous pouvez nous contacter en tous les cas sur www.desoutsetdeshommes.org. Là, normalement, vous trouverez la dernière grille des programmes que l'on met à jour. Et vous pourrez aussi trouver nos émissions en écoute et normalement aussi les textes retranscrits des émissions grâce au courage d'un certain Thomas notamment. À la semaine prochaine.